À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'association INIS Italie Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.
Bonjour, bonjour Serge, bonjour Laurent.
Bonjour.
Bonjour à tous nos invités qui sont nombreux pour cette dernière émission de la saison, puisque nous reprendrons après les vacances. Alors aujourd'hui, on a de jeunes invités accompagnés par leurs professeurs. En fait, on a des représentants du lycée Delorme, encadrés par Laurent Sozou, qui va nous dire de quelle classe elle suit et pourquoi tous ses élèves, on les invités, on le sait, nous, mais elle va vous spécifier pourquoi, quel travail ils ont fait, et ils arrivent d'Italie. Donc, Laurence, on va vous laisser présenter vos élèves et puis nous dire de quelle classe il s'agit.
Voilà, bonjour. Merci à Couleur FM et à Dinis de nous laisser la parole. Donc, je suis venue ce soir avec des élèves de classe de terminale avec lesquels j'ai monté un projet pendant toute une année sur le thème de l'Expo universelle de Milan 2015 qui s'appelle « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Donc, nous avons ce soir Elisa, Camille, Alexandre et David.
Très bien. Alors, le thème de l'Expo de Milan, elle est rentrée dans le cadre d'un échange que vous avez eu, que vous aviez peut-être déjà avant, non, ou avec un lycée de Turin,
oui,
si alors, je ne m'abuse, ou de la région de Turin.
C'est exact. Alors, l'histoire date d'il y a 2 ans. C'est une rencontre sur la plateforme d'échange européenne qui s'appelle eTwinning. Et là, j'ai rencontré une collègue de Settimo Torinese, de l'Istituto Otto Marzo. Elle s'appelle Paola Bava. On a fait un échange l'an dernier avec des classes de seconde. Ça a très bien marché. Et j'ai proposé cette année, enfin l'an dernier, le projet date du mois de mai, j'ai proposé aux élèves de terminale de cette année de travailler.
En deux mots, comment ça se déroule ce genre d'échange? Donc vous vous contactez directement par un site internet?
Alors nous nous sommes rencontrés justement sur la plateforme d'échange qui permet de trouver un établissement qui sera partenaire. Donc là il s'agit du lycée de Settimo Torinese et nous montons un projet. Voilà, l'an dernier, avec la classe de seconde, c'était sur le thème de la colocation. Et là, on a monté un projet sur le développement durable et la nourriture, comment devenir des consommateurs, on va dire.
Et quand vous montez vos projets, chacun parle la langue de l'autre, comment il se fait, ou c'est l'enseignant qui résume un peu les propos de chacun?
Alors, la collègue italienne a travaillé avec 2 classes, on a terza, on a quarta, et moi j'ai travaillé avec des élèves de LV2, LV3 et des élèves de spécialité, mais tous en terminale.
D'accord.
Et il y avait 80 élèves au total qui ont été partagés en 14 groupes qui ont travaillé chaque groupe sur des thèmes différents, tous autour de la même notion.
C'est très large comme spectre.
Ça a été très diversifié, difficile à suivre pour les enseignantes parce que bon, il fallait être un petit peu partout, partout à la fois. Les élèves ont été bien courageux parce que je tiens à dire qu'ils ont travaillé quasiment en autonomie, ils ont fait les recherches tout seuls. Et donc, ils ont travaillé, eux, sur la plateforme TwinSpace qui leur permet un anonymat, qui leur permet de publier, de partager des documents vidéo, des musiques, des dossiers, et de travailler en collaboration, synchrone ou non, avec leurs camarades italiens. Et ça se faisait en anglais, enfin en anglais pour certains, non, en italien beaucoup, en français, en fonction de leur facilité, de leurs aptitudes.
Et dans les recherches, voilà, je m'adresse aux tous ces jeunes gens, comment vous procédiez, puisque il y avait visiblement, par rapport au thème choisi, il y avait beaucoup de recherches à faire. Et comment vous organisiez vos recherches? Puisqu'on expliquait qu'il y avait plusieurs groupes, est-ce qu'il y avait un chef de groupe? Comment vous conditionniez ça? Alors, qui veut prendre la parole? C'est le premier qui est le plus difficile.
Ben, moi, ça ne me dérange pas.
Il ne faut pas que ça vous dérange, au contraire, que ça soit un plaisir.
Disons que nous, on était dans mon groupe, on était 2 Françaises, donc on travaillait sur les AMAP, c'est en gros consommer local. Et on était donc deux Françaises avec quatre Italiennes. Et en fait, on travaillait, il n'y avait pas une chef de groupe ou quoi, c'est qu'on travaillait, on se partageait les tâches, on travaillait ensemble et on en faisait autant chacune. Voilà.
Et on peut rappeler le votre prénom ?
Camille.
Camille. Et pour travailler, comme ça, vous aviez des horaires particuliers ou il y avait des séquences par semaine ? Comment ça se déroulait ces échanges ?
Avec ma collègue italienne, on avait établi un programme sur l'année. Donc on a commencé par faire en sorte que les élèves se connaissent un peu, les goûts, pour pouvoir déterminer des groupes. C'est ce qui nous a pris pas mal de temps. Et ensuite, eh bien, ils sont mis à travailler et on vérifiait régulièrement l'avancée du travail. Alors c'est vrai que ne s'étant pas vus avant, les échanges étaient peut-être rendus un petit peu difficiles. C'était du virtuel encore. Je pense que si on avait commencé par rencontrer les correspondants italiens, le travail aurait été beaucoup plus rapide
et efficace.
Oui, parce
que physiquement, si j'ose dire, vous les avez découverts lors du voyage.
Donc ça a été du virtuel.
Oui.
Non, j'ai eu la chance justement de les rencontrer lors d'une visioconférence. D'accord. Donc dans mon groupe. Qu'on travaillait sur l'élevage intensif et donc en fait on avait la prof italienne qui travaillait justement avec la classe de nos correspondants nous avait proposé une sorte de plage horaire en fonction de la classe pour permettre de les rencontrer et de parler un peu avec eux.
D'accord.
Et du coup en fait on les a rencontrés, on a pu parler un peu, se présenter, avoir un nom sur le visage de la personne.
D'accord.
Et donc, on a pu discuter, se renseigner un peu plus sur le travail qui a déjà été fait, et aussi rencontrer tous les élèves de la classe ainsi que la prof.
Ton thème, c'était quoi ?
Sur l'élevage intensif.
Ah, sur l'élevage intensif. Alors si on balaye les autres thèmes qu'il y avait.
Alors, tu peux rappeler ton prénom ?
Moi, c'est Alexandre.
Alexandre. Alors, Alexandre, l'élevage intensif, David. Les AMAP.
Moi, mon thème, c'était le secteur alimentaire.
C'est-à-dire ?
La création d'un produit, sa transformation, puis ensuite comment il est réparti sur le marché.
Et Elisa ?
Moi, c'était le territoire. Donc, c'était au niveau des évolutions démographiques. Moi, j'ai travaillé sur justement les évolutions démographiques, donc la congestion urbaine et la désertification rurale.
D'accord. Oui, le spectre est énorme.
Et chacun exposait, si je puis dire, dans cette plateforme, les caractéristiques de son propre pays ou vos recherches allaient sur une région. Comment ça se passait?
Les élèves devaient échanger et voir un petit peu ce qui se pratiquait en France et faire ressortir vraiment ce qui était le plus important sous forme de carte mentale et de slogans qu'ils devaient présenter.
Qu'est-ce
ensuite.
Qu'est-ce que c'est qu'une carte mentale?
Alors, les élèves vont vous l'expliquer mieux que moi.
Ah oui, non, on ne sait pas.
Allez, Elisa.
Alors, en fait, vous mettez le thème principal dans le centre et puis après, vous mettez des branches avec les mots en rapport
au sujet.
D'accord. Tout ce qui vous vient à l'esprit, après vous faites des liens.
Tu vois, tu es bien fait de venir.
Il faut dire que le lycée Philibert Delorme travaille avec neurosciences c'est une façon d'apprendre, de voir comment fonctionne le cerveau et de l'utiliser au mieux, et la carte mentale est vraiment un point de départ pour
Et le rendu de ces travaux, c'est...
Il s'est fait sous quelle forme? Bon, on a eu là un exemple, mais est-ce que derrière, hormis l'échange sur la plateforme, il y a quelque chose de papier, d'affiche
Sur une plateforme?
Alors, sur le site TwinSpace, il y a tous les forums, les 14 forums, avec les autres thèmes que nous n'avons pas cités, la biodiversité, le commerce solidaire, les OGM, slow food et fast food, la convivialité et le gaspillage. Ça faisait partie de tous ces thèmes. Et donc, les élèves vont finaliser, avant la fin de l'année, publier leur production, et ensuite on demandera avec la collègue italienne une validation, c'est estampillé TwinSpace, et le projet sera bouclé et on pourra le publier, c'est-à-dire qu'on pourra le mettre à disposition d'autres.
On pourrait faire un lien sur le site de l'INIS.
Voilà, parce que c'est un peu dans ce sens que je posais la question. Et cet existant, après, qui sera validé, il peut être utilisé avec votre accord, j'imagine, pour qu'on puisse le mettre, par exemple, sur le site de l'association, et qu'il serait visité par toutes les personnes qui vont sur le site, par exemple. C'est plutôt une idée.
S'il est publié et validé, effectivement, on pourrait mettre le lien. oui.
D'accord.
Et puis donc les élèves, lorsqu'ils se sont rendus en Italie, au lycée, ils ont présenté. Voilà, on a eu une demi-journée de travail avec les correspondants italiens et une prise de parole en public pour présenter leur carte mentale, prendre la parole en italien, en français.
Est-ce que vous avez eu des aides, sans parler d'aides uniquement financières, hein, des aides tout court de l'extérieur, je sais pas, de sociétés, d'agriculteurs, qui vous ont apporté des informations ou que vous-même avez contacté, ou tout s'est fait de façon recherche virtuelle, enfin internet, je veux dire.
Non, on avait pensé au début, voilà, travailler avec des AMAP, intervenir aussi sur la cantine, mon lycée mange bio, c'est une... voilà, ça s'est pas fait. Bon, le lycée est éco-responsable, ce qui implique certaines chartes de respect, justement, de tri des déchets, de préservation de l'eau, mais on n'a pas pu mener à bien tous les projets qui étaient prévus.
Quel enseignement vous tirez de ce type de travail?
Pour moi, c'était particulièrement enrichissant parce que, en plus d'avoir travaillé en collaboration avec des étrangers, je me suis fait de vrais amis personnellement. Et aujourd'hui encore, je suis en contact avec eux chaque jour et parfois je leur rends visite. Et je trouve que, entre plusieurs personnes de différents pays, je trouve ça quand même assez. Assez fédérateur, quand même.
Très bien. Elisa ?
Moi, je sais que le dernier jour, ça m'a beaucoup touchée. Le début du cours de français en Italie, ils commencent leur cours en disant « Bonjour, madame, on se regarde, on se sourit si c'est possible ». Et ça m'a beaucoup marquée parce que je me suis dit que commencer un cours comme ça, ça donne un élan positif et je pense que les élèves sont plus aptes à écouter après. Et puis même avec ma correspondante, on a bien sympathisé. Je compte l'inviter en juillet.
C'est bien. Donc dans les échanges, je suppose que vous parlez aussi de musique entre jeunes gens.
Oui, on a parlé un peu de tout. Personnellement, j'ai parlé de cinéma, j'ai parlé de football parce qu'il était particulièrement intéressant.
C'est rare en Italie de parler de football. Moins qu'avant, mais enfin.
Oui, aussi de la musique, mais on a surtout parlé au niveau de l'Expo de Milan, déjà parce que personnellement j'étais beaucoup intéressé.
Alors on va y venir après, à l'Expo de Milan. Vous avez choisi vous-même les musiques qu'on va entendre ce soir. Alors c'est toi qui vas nous présenter le premier morceau.
Alors c'est un morceau du groupe de l'artiste Caparezza, Goodbye Malinconia.
Très bien.
Oggi paese dei raggi uva, non è l'impressione, la situazione più grave di un basso tuba. E chi vuole rimanere, ma come fa? Ha le mani legate come Andromeda. Qua ogni rapporto si complica, come quello di Washington con Teheran. Si peggiora con l'età, ti viene il broncio da Gary Coleman. Metti nella valigia la collera e scappa da malinconia. Tanto se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua qua se ne va, vanno tutti. Da qua se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti. Non te ne accorgi, ma da qua se ne vanno tutti.
Le titre
Caparezza, Goodbye Malinconia.
Alors ce morceau, si j'ai bien compris, c'est un copain italien qui vous l'a fait connaître.
Oui, et surtout que j'avais déjà en fait entendu un peu avant, d'accord, en cours d'italien, justement avec Madame Ozu, on avait un peu
parlé de la chanson.
Nous avions travaillé sur le rap et nous avons fait un projet. Les élèves ont créé leur propre rap avec des paroles de contestation et ils sont ces raps sur le site du lycée Philibert Delorme.
Ah, très bien. Alors, Laurence, vous vouliez peut-être nous expliquer un petit peu le projet
Alors, le projet a bénéficié de l'aide de la région, voilà, Rhône-Alpes. Mmh. Il s'inscrivait dans le cadre des projets de mobilité internationale, les projets Eureka. Et les élèves sont partis pour une somme relativement modique, ce qui était appréciable parce que ça a permis d'emmener tout le monde.
Et la région Rhône-Alpes, parce qu'elle était présente sur l'Expo de Milan, ou ça n'a rien à voir?
Alors,
le fait
la région
qu'elle ait aidé à ce projet.
La région Rhône-Alpes nous a aidés initialement, c'est-à-dire au mois de juin l'an dernier, donc 2014. Et lorsque nous avons présenté de façon plus ample le projet, ils nous ont proposé justement d'intervenir sur le site de l'Expo, puisque la région Rhône-Alpes a la présidence du pavillon France pendant les deux premiers mois de l'ouverture de l'Expo. Nous avons invité des étudiants à venir nous écouter, partager avec nous notre projet, et en fait on n'a eu personne, donc nous avons été de simples touristes à l'Expo universelle.
Sur le stand de la région Rhône-Alpes, il y avait même des représentants du Nord-Isère, hein. Il y a plusieurs, je crois.
Bien.
Alors après tout ce travail initial, vous êtes parti
à l'Expo.
En Italie, non, avant à Turin.
Ah oui, avant Turin. Oui.
Enfin, Turin, la région de Turin au départ, c'est ça? Turin même.
Olingotto.
Turin même, alors.
Voilà,
Olingotto, vous vous rappelez?
Oui.
Qu'est-ce que c'était, Olingotto, avant, alors?
C'est un peu comme un grand, grand centre commercial.
Maintenant?
Non,
oui.
Mais avant.
Avant.
Ah, avant.
C'était un ancien circuit de course de voitures.
C'est une usine où on produisait des voitures Fiat.
Il y avait effectivement un circuit d'essai.
Et les voitures étaient produites en montant, et en haut, il y a un tour, mais elles ne faisaient pas de la vitesse. Elles faisaient juste un tour pour voir si ça roulait.
C'est plus au niveau des
essais. Et après, elles redescendaient par l'escalier en colimaçon. Je sais pas si... Pas l'escalier, le...
L'escalier, c'était un petit peu difficile.
La rampe, voilà.
Et donc, maintenant... Le Lingotto, comme tu l'expliquais,
c'est un grand centre commercial.
Ouais. Voilà, ou d'exposition.
Ouais.
Et là, donc, est-ce que vous avez vu
Alors, nous sommes passés par le Lingotto pour nous rendre à Italy, qui est le premier magasin au Lingotto qui a été fondé par Oscar Farinetti. C'est le premier point de vente qui a été fondé en 2007.
Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce point de vente, Elisa?
Alors, c'est un concept. Il privilégie la filière courte, donc pour qu'il y ait le moins de kilomètres possible entre le consommateur et le vendeur. Mm-hmm. Et donc, on a vu à peu près toute la philosophie du concept.
Oui, nous avons bénéficié d'une visite guidée des lieux. Donc, est-ce que quelqu'un
peut nous décrire un petit peu cette visite? Elisa, toujours.
Moi, je m'en rappelle.
Elle est en forme, Elisa.
Il y a quelque chose qui m'a marqué dans Italy. C'est une grande table où il y a plein de produits qui sont représentés. Et il y a des saisons dessus. Et ça m'a beaucoup marqué.
Ça, c'est important. Manger des produits, la saison où ils sont consommés.
Voilà, deux saisons, voilà.
Oui. Vous étiez avec Elisa sur 97.1, qu'on leur a fait. Ouais. Alors,
qu'est-ce qu'on a vu d'autre à Italy? Vous vous souvenez peut-être de... La visite, les caves d'affinage.
De fromage, donc.
Pour le fromage, oui, on était dans le fromage.
On avait surtout la cave d'affinage pour le jambon. D'accord. On a vu différents... c'était une grande cave, en fait. Donc, il y avait une partie qui était pour les visiteurs. Donc, ils présentaient leurs produits sur une table en bois avec le jambon accroché... Et là même, je crois, il avait même reçu une médaille, ce jambon dessus qu'on avait vu justement, qui était en présentation. Et juste à côté, on pouvait voir les réelles conditions, justement, comme un producteur frais. En fait, donc on avait une sorte de grande baie vitrée. Mm-hmm. Et de l'autre côté, on avait les jambons, justement, accrochés par un câble et accrochés, mais en ligne, en fait. Donc, c'était vraiment des couloirs où on pouvait... circuler entre, vérifier le produit. C'était vraiment dans des conditions atypiques, je dirais, parce que les murs étaient faits en briques. D'accord. Et puis il faisait très très frais. Donc, aussi,
il y a une reconstitution, oui, tout simplement.
Mais c'était une ancienne usine d'apéritifs.
D'accord.
Donc qui a été restructurée parce que les concepts de Italie, c'est de se servir du matériel industriel existant.
De le réaménager,
réaffecter. Mm-hmm. Et c'est vrai que les locaux sont intéressants, avec comme un marché, avec des petits restaurants. Donc les élèves ont pu goûter, ils avaient une carte prépayée et ils ont mangé ou acheté pour eux ou leur famille des petits cadeaux.
Très bien. D'autres choses sur cette visite ? Camille ?
Ce qui était bien, c'est qu'en fait, pour les restaurants, il y avait des restaurants par rapport à des types d'aliments. Donc, le midi, comme on devait manger, sur le site de Italy, si on avait envie de manger du poisson, on allait au restaurant poisson, il y avait une carte de poisson. Si on voulait aller manger au restaurant viande, c'était pareil. Et je sais que moi, personnellement, j'ai mangé au pôle, c'était pizza et pâtes. Et donc, en fait, il y avait des produits... fait sur place et c'était vraiment super bon parce que du coup ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange en France. Les pizzas c'était
de la pâte à pizza.
C'est
de la pâte à pizza.
Il y avait même des fraises en dégustation et j'ai vu passer plusieurs fois les mêmes personnes, y compris moi.
Sinon, d'autres sur cette visite ou la suite du voyage, si vous avez d'autres choses sur cette visite,
si vous avez goûté des choses particulières, vu des produits que vous ne connaissiez pas.
Ou appris des mots en italien, d'ailleurs. Un peu plus, parce qu'ils sont très bons, je crois. Non, rien de
alors,
particulier.
La suite.
Alors, la suite, après le Lingotto. Alors,
c'était l'accueil au lycée. donc par les correspondants, donc grand moment, puisque bon, là, ils découvraient en vrai leurs correspondants.
Métiers, et... des visages, sauf certains qui avaient déjà vu une vidéoconférence, mais des visages sur...
Voilà, c'était sur des visages, noms. C'était surtout des sourires, c'était des grands moments d'émotion, et le lycée italien avait fait les choses bien, parce que tous les élèves avaient préparé un goûter pour nous accueillir, donc c'était une bonne entrée en matière.
Alors là, comment se sont faits les premiers contacts? C'est toujours pas évident, les premiers contacts. Si?
Moi, personnellement, je sais que j'ai eu du mal à trouver ma correspondante.
Ah,
j'ai demandé plusieurs fois où était Déborah. Et finalement, je l'ai trouvée. Au début, c'était difficile à rentrer en contact, mais on est très vite rentré en contact. Parce que le premier soir, elle m'a direct emmenée faire un tour de son village.
D'accord.
Elle habite pas à Settimo-Torlinese, même elle habite à Leni. Et on était faire un petit tour, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa de sa part.
Alors après, tu vas la recevoir, je crois.
En juillet.
Donc il va lui faire faire un petit tour aussi. Très bien.
Je pense que les élèves ont découvert un peu la vie italienne dès le premier soir. Certains sont rendus à Turin, ils se sont couchés pas trop tôt.
Et vous étiez dans des villages différents ou la plupart étaient à Settimo-Torlinese? Comment ça se passait là avec vos correspondants?
Personnellement, pour moi, mon correspondant, il habitait même pas à 200 mètres du lycée, donc à Settimo en lui-même. Et puis, justement, quand on est arrivé, c'était très, très convivial. Ça, c'est ce qui m'a surpris surtout, parce qu'on s'était jamais vu avant. Mmh. On s'est même pas forcément serré la main, on s'est d'abord fait la bise. Mmh. Ensuite, il m'a demandé, il a essayé de parler un peu français, donc après, on s'entraidait. Moi, je parlais italien.
Eh oui, c'est le moment.
Donc, il m'a invité à boire un verre de soda, discuter un peu, à me présenter ses amis surtout. C'est ce qui m'a fait. Ça m'a surtout fait plaisir, c'est qu'il me présente ses amis, qu'il me dise voilà mon correspondant. Un peu comme c'était. On était déjà des amis de longue date qu'on se revoyait, et franchement, c'était super passionnant.
Bah, quant à moi, lorsque j'ai rencontré mon correspondant, déjà, il avait un grand sourire sur son visage. Puis, la première chose qui m'a fait faire, c'est me présenter à ses amis, qui, tout de suite, avaient pareil. Grand sourire, bonne humeur. On était inondés de questions. Ouais, qu'est-ce que vous faites? Comment vous trouvez notre lycée? Tout ça. Puis... moi aussi, j'ai eu droit à l'hospitalité italienne. Il m'a amené chez un glacier où j'ai pu déguster un frappé italien et payer de la part de mon correspondant. J'insistais, mais pourtant, il me disait « Non, je te le paierai, il n'y a pas de problème. » Tout ça dans vraiment la bonne humeur et l'esprit italien. Quoi.
Il habitait à Settimo aussi?
Lui aussi habitait à Settimo.
Et Camille?
Alors moi, elle habitait à San Benigno Canavese, je crois. Donc on venait en train tous les matins, c'était drôle parce que du coup, on avait un quart d'heure de train pour venir. Et elle était adorable aussi parce qu'on avait déjà communiqué par Facebook avant, donc on se connaissait déjà un petit peu. Mais c'est pareil, quand on s'est vus, au début, c'était un petit peu difficile parce que du coup, on ne savait pas trop quelle langue parler... parce qu'elle parlait... Enfin, moi, je parle pas non plus hyper bien italien. Elle parlait pas super, super bien français. Donc, c'était un petit peu compliqué au début. Mais au final, on a très bien réussi à s'entendre. On avait plein de points communs. On faisait de la musique toutes les deux. Et elle m'a présenté aussi des amis qui parlaient super bien français. Donc, du coup, au final, j'ai fait connaissance de plein d'Italiens avec qui je suis en contact aujourd'hui. Et que je vais sûrement revoir cet été. Et voilà.
Tu joues d'un instrument?
Oui, je fais du piano.
Très bien. Et l'île d'Abo, ça leur dit quelque chose, alors maintenant?
Alors, les élèves de ma collègue étaient venus l'an dernier, donc ceux de seconde, mais donc elles connaissaient. Mais c'est vrai qu'on avait fait tout un travail aussi de réflexion et d'échange pour abbinare, comme on dit en italien, faire correspondre les personnalités pour qu'il y ait le moins de déceptions possible.
Ça a l'air d'être réussi.
Voilà, au vu des sourires et des larmes le dernier jour, je pense que ça. On sait qu'on a réussi ce pari de faire se rencontrer, échanger, et c'est ce qui nous. Rend heureuse aussi.
On parlait de glace, tu parlais de glace, là, je crois que vous avez vu, c'était peut-être le dernier jour, ça. Vous avez visité ou goûté
Oui, c'était le dernier jour, nous nous sommes rendus et nous avions là aussi une explication sur la philosophie de ce glacier Grom.
Ah, c'est qui extraordinaire.
Qui a vu sa naissance à Turin, donc en 2003, en fait. On rappelle en deux mots, oui. Il s'agit de deux jeunes hommes, Guido Martinetti et Federico Grom, voilà, qui ont créé ça. C'est un petit peu par hasard. Alors, je me suis informée sur l'histoire de cette création. Guido Martinetti se trouvait à la pause déjeuner avec son journal, son sandwich, et il a lu un article de Carlo Petrini, qui est un grand...
On connaît bien.
Voilà, vous connaissez, je sais que vous en avez parlé.
On en a parlé
voilà, de Slow Food.
Dernièrement, d'ailleurs.
Exactement. Et ce Carlo Petrini disait qu'en Italie, plus personne ne faisait il gelato come una volta, c'est-à-dire comme autrefois. Et ça fait tilt dans la tête de Guido Martinetti, qui s'est dit... Eh bien, nous, on va refaire. Enfin, moi, je vais me lancer. Ça, c'était en 2002. Et en 2003, il y avait la création du premier Grom à Turin.
Qui est de la vraie glace? C'est surtout ça. La philosophie, il n'y a pas de l'air, en fait. C'est
de la glace. Alors, oui. Il n'y a pas de conservateur, pas d'émulsifiant, pas de colorant, pas d'arôme de synthèse. Et les produits sont de saison. Donc là, on a goûté des glaces au citron. Il y avait les premières fraises. Et bon, on nous avait demandé de venir un peu tôt dans l'après-midi parce que les files sont continues. Il y a vraiment du monde tout le temps dans ce magasin. C'est un vrai succès. Et ils vont ouvrir, ils ont ouvert déjà des filiales un peu partout.
On arrive à l'expo.
Alors l'expo, c'était le milieu du sandwich, c'était le deuxième jour. Donc.
Le deuxième jour. Alors cette expo avait un thème, puisque vous y aviez travaillé dessus d'ailleurs. Alors c'était donc, le thème, on peut le rappeler ?
Nourrir la planète, énergie pour la vie.
Voilà. Et alors on avait eu l'occasion avec Serge de présenter cette expo ici. On avait notamment parlé de l'intervention.
Voilà, on a souligné l'intervention de Petrini. On en a fait un petit résumé.
Voilà, vous voyez. C'est une vidéo qu'on a mis sur notre site, d'ailleurs. Et puis, alors, comment vous avez vécu cette expo, déjà ? Alors, je ne sais pas, l'approche, ce que vous en attendiez, etc.
Alors, l'approche, ça a commencé par 2h15, 2h30 d'une attente pidja-pidja, comme on dit, au coude à coude. Bon, voilà, après, ça s'est amélioré, puisque l'espace est tellement vaste qu'on n'a pas cette impression de foule. C'est vraiment très fluide.
Donc, il y a de nombreux pavillons, évidemment, puisqu'il y a plus de 140 pays qui sont représentés. Peut-être une soixantaine de pavillons, non ? Comme ça.
Il y a des clusters qui regroupent le riz, le cacao. Il y a des petits pavillons.
Vous avez fait un choix de pavillon ou vous êtes allé un petit peu au hasard comme ça, peut-être avec une idée préconçue de ce que vous vouliez y voir ou y trouver, je sais pas. Non.
Bah déjà, lorsqu'on est rentré, on a déjà observé un peu ce qu'il y avait autour de nous. On a vu déjà une grande allée. Ensuite, on s'est tout de suite dirigé vers le pavillon français pour voir ce que c'était.
Bien sûr.
Ce que c'était vraiment. Donc, on a été vraiment impressionné par la structure déjà du pavillon parce qu'on avait vu quelques images sur internet, de documents, etc. Et franchement, c'était vraiment impressionnant. Ensuite, on a su pourquoi et comment ils ont fait ce pavillon-là, l'idée qu'ils avaient eue.
Alors, on l'explique en deux mots ?
Oui, en deux mots. C'est, en fait, ils ont pris le relief un peu de la France, c'est-à-dire les plaines, les montagnes, les collines, etc. Et en fait, ils ont pris ce relief-là, ils l'ont modélisé sur ordinateur, et ils ont fait ressortir, en exagérant un peu les points comme les montagnes, et ils ont ensuite fait basculer ce relief-là, et ça donne la forme, en fait, du pavillon français.
Et qui est en
bois.
Bois.
Recyclable, démontable.
Démontable.
Voilà, comme toutes les structures qui se trouvent sur le site de l'expo.
Et hormis le pavillon lui-même, donc la structure, qui est impressionnante, à l'intérieur, vous avez trouvé des choses, Elisa ?
Personnellement, j'ai été voir le pavillon Espagne et il m'a beaucoup marqué parce que c'était un dispositif où il y avait des ronds et où il y avait des images qui étaient projetées. Et j'ai trouvé que ça faisait un peu un univers de rêve, parce que pour moi, les ronds, c'est synonyme de bulles, et les bulles, c'est synonyme de bain, et le bain, c'est détendre, donc du coup, voilà.
Alors, pour le moment, dans ce que vous décrivez tous les deux, pour tout au moins, on va demander aussi à vos collègues, c'est surtout l'aspect...
Le visuel.
Le visuel qui vous a d'abord frappé. Tous les deux aussi, ou... Toi ?
Eh bien, pour moi, les visuels, c'était vraiment impressionnant. Quand on voit l'expo, c'est à perte de vue. Et vraiment, sur des centaines de mètres, je voyais des successions de drapeaux et de pavillons. C'est...
Et des structures très variées.
Le pavillon de l'Italie, quelle allure il a ?
Le pavillon de l'Italie, alors, je ne me rappelle pas tellement. Le pavillon de l'Italie.
Une dentelle blanche, en fait.
Voilà. En fait, c'est une sorte de grande dentelle blanche. Et lorsqu'on rentre dedans, donc déjà, il faut savoir qu'il y a une sorte de petit chemin qu'ils ont fait en cailloux. Et il y a une sorte d'ascenseur, je crois, en verre qui permettent de monter et de voir un peu autour. Et dedans, c'est tout fait avec des matériaux déjà qui sont recyclables, avec des roches, des parterres un peu en bois, je crois, ou aussi en roche, mais comme des sortes de dalles. C'était super impressionnant parce que juste après, à côté du pavillon, il y avait une sorte de grande tour en bois. Et à peu près vers les midi, ils ont fait une sorte de spectacle où ils balançaient un peu des jets d'eau et ils ont fait un peu la présentation comme si c'était dans un parc d'attractions, mais c'était vraiment impressionnant.
Et Camille ?
Moi, si on continue sur l'architecture, ce qui m'a marqué le plus, je crois que c'est le pavillon du Royaume-Uni. Parce qu'en fait, il était tout organisé autour d'un... Donc c'était un jardin, en fait, et c'était sur l'importance que les abeilles ont dans le développement durable et dans... Mm-hmm. pour l'avenir de la planète en général. Et donc, en fait,
ça se gâte en ce moment, pour les abeilles.
Oui. Quand on rentrait, c'était un énorme jardin, il y avait plein de fleurs, et au milieu, au centre, il y avait... au début, j'avoue que j'ai pas compris ce que c'était au début, mais en lisant toutes les informations, j'ai compris. En fait, c'était une ruche qui était en métal, et la façon, en fait, dont c'était présenté et dont on pouvait rentrer dans la ruche, etc., c'était nous qui étions les abeilles et qui rentrions dans
Voilà. Alors, on continuera l'expo, mais plus sur le respect du thème, je vais dire. Une question, vous étiez avec vos collègues italiens là, dans la visite.
Et vous, c'était suffisamment grand pour pouvoir les emmener,
Et vous aviez fait des petits groupes ? Comment vous fonctionniez ?
Alors, après la visite, tous ensemble du pavillon France, les élèves se sont répartis sur ce qu'ils avaient déjà prospecté, ce qu'ils avaient l'idée d'aller voir. Parce qu'il est
et vous avez écouté une chanson dans le...
Ben, là, on va en écouter une autre ici, déjà, non ? C'est peut-être là-bas. Il y avait de la musique, oui, ou non, peut-être
oui,
pas,
oui,
un petit peu.
Oui.
Ouais. À des moments précis
Il y avait des groupes en Argentine, par exemple, des groupes de batucada, de musique de rue, avec des tuyaux, des choses comme ça. C'était très prenant, très dansant.
Est-ce qu'il y avait des conférences Enfin, on en parlera tout à l'heure, peut-être. On va d'abord écouter un petit morceau. Alors, qu'est-ce qui nous le présente? Toujours toi?
Alors, c'est un morceau de Fabi Ferribra, In Italia.
Très bon choix.
Le macchine in Italia, Machiavelli e Foscolo, in Italia i campioni del mondo sono in Italia. Benvenuto in Italia, fatti una vacanza al mare, in Italia meglio non farsi operare, in Italia e non andare all'ospedale, in Italia la bella vita, in Italia le grandi serate in gala, in Italia fai affari con la mala, in Italia vicino che ti spara in Italia.
Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.
Fuggi in Italia. I mafiosi sono in Italia e più pericolosi sono in Italia, le ragazze nella strada, in Italia, mangi pasta fatta in casa, in Italia, poi ti entrano i ladri in casa, in Italia, non trovi un lavoro fisso, in Italia, ma baci il crocifisso, in Italia, i monumenti, in Italia, le chiese con i dipinti, in Italia, gente con dei sentimenti, in Italia, la campagna era in Italia.
Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.
Fuggi in Italia, le ragazze corteggiate, in Italia le donne fotografate, in Italia le modelle ricattate, in Italia impara l'arte, in Italia gente che legge le carte, in Italia assassini mai scoperti, in Italia volti persi e volti cerchi, in Italia.
Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà.
sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.
On parle après. Voilà, un deuxième morceau.
Morceau de Fabi Fibra, In Italia.
Très bien. Alors, on va continuer, on l'a dit, avec sur le l'expo, thème. Mais avec le thème de l'expo. Alors, Serge.
Qui était nourrir la planète.
Énergie pour la vie.
Voilà.
Alors,
David.
Alors, concernant ce thème.
Est-ce que tu as retrouvé le thème dans ce que tu as vu?
Je dirais en partie.
Voilà.
Parce que malheureusement. C'était plus, donc, comme je l'ai dit, une expo miroir. C'est-à-dire, on avait, donc, parmi tous les pavillons, les pays présents, au lieu d'avoir des pays qui abordaient le thème, on avait plutôt affaire à une mise en avant de leur culture personnelle et pas vraiment. Il n'y avait pas vraiment de traitement du thème parmi tous ceux que j'ai pu voir. J'ai remarqué seulement quelques pays qui, eux, avaient vraiment abordé le thème, comme les États-Unis, un peu la France.
La Belgique, oui, avec les cultures hydroponiques qui alliaient les salades et les poissons, voilà.
Oh, il y avait Slow Food quand même.
Oui, aussi.
Ouais. Et alors, en quoi le thème t'a paru peu traité?
Eh bien, c'était surtout, il y avait d'une partie la présence des lobbies, mais ça, c'était des sponsors. Mais le pire, je pense, c'était tous ces pays. Qui eux mettaient en avant en fait vraiment comment eux ils vivaient. Et chacun disait voilà comment je vis, et je pense que la façon dont je vais aborder le futur est meilleure que la vôtre. Par exemple, j'ai visité le pavillon des Émirats Arabes Unis, qui eux vont avoir des problèmes par exemple pour acquérir l'eau dans le futur. Et ils nous parlaient uniquement des dates, enfin de comment leur mode de vie chez eux, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils faisaient, comment ils l'importaient, tout ça. Et je trouvais ça dommage. Ils n'abordaient pas le thème. C'était un exposé de leur culture.
Au lieu de leur savoir-faire, peut-être, sur chaque pavillon.
Sans grande prospective de leur part, alors.
Non, pas vraiment.
Tout le monde, Camille, Elisa aussi, toi?
Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu aussi pareil pour la France. Parce que déjà, avant de rentrer dans le pavillon français, il y a une sorte de labyrinthe un peu où ils nous exposent comment les cultures sont faites en France. Donc, tout bien aligné et tout. Mais ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est qu'il n'y a pas que ça non plus. Il y avait des grands écrans qui étaient sur des chariots. Et en fait, c'était donc une vidéo, un montage vidéo où ils nous parlaient de l'avenir déjà. Donc, les gestes qu'il fallait avoir aujourd'hui pour avoir une belle terre pour demain et pour les futures générations. Et il parlait aussi surtout d'un gros problème qui en ce moment, c'est le gaspillage alimentaire. Donc je sais qu'en France, il y a une loi qui va bientôt passer sur le fait que les grandes surfaces, au lieu de jeter tous les produits qui sont bientôt périmés ou presque à la fin de la date de péremption, les redonner à des associations, après je sais pas lesquelles, mais je penserais plutôt Resto du Cœur ou un truc comme ça, pour les donner tout simplement à des personnes qui sont justement qui n'arrivent pas à se nourrir, sachant que ces produits-là ne sont, c'est pas parce qu'ils ont dépassé la date de péremption d'une semaine.
Oui, qu'ils sont mauvais, quoi.
Voilà, qu'ils sont mauvais. C'est, personnellement, j'ai déjà mangé un yaourt qui avait dépassé d'une semaine la date de péremption. J'ai pas eu de maladie ou de
tout. En pleine forme.
J'étais en pleine forme.
D'ailleurs, toujours en pleine forme.
Oui.
Donc là, on est plutôt sur le côté gaspillage, on va dire. Enfin, bon, ce que vous retenez, visiblement, il y a une grosse partie qu'est-ce qu'on sait faire, et puis peut-être une partie qui se rapporte au thème. Mais c'est peut-être pas la partie principale, d'après ce que je crois comprendre de ce que vous nous exposez là. Camille aussi, tu as un peu...
Ben, moi, ce que j'ai pas mal regretté aussi, c'est que... Alors certes, c'était joli, hein, y a des pavillons qui étaient très beaux. Quand on rentrait, c'est vrai que ce qu'ils exposaient, ils avaient raison sur ce qu'ils disaient, leur façon, donc comment chaque pays voit le futur, etc. Mais ce que j'ai un petit peu regretté, en même temps, c'est quelque chose qui pourrait paraître logique, c'est que quand on voit les pays riches, par exemple le pavillon des États-Unis qui était énorme, avec bon, c'était des vidéos en fait qui parlaient un petit peu de l'histoire des États-Unis, comment ils traitaient un petit peu le thème. Donc c'était quelque chose de très grand, et quand on allait dans les petits pavillons africains qui ne sont pas des pays très développés, on avait une petite salle d'une quinzaine de mètres carrés avec une ou deux personnes dedans, donc j'ai trouvé ça dommage.
Chacun avait un espace à la mesure de ses moyens, ce qui n'est pas tellement dans la logique du thème. Et Elisa aussi ?
Moi oui aussi.
Et est-ce que les intentions, parce que les intentions, il faut qu'il y ait des actions, est-ce que vous avez entendu, est-ce qu'il y avait des conférences déjà sur organisées par les pays ou par thème qui présentaient des actions en cours ou quoi? Parce que
je crois qu'il y a tout un programme de conférences, de manifestations, mais là, sur une journée, nous n'avions pas le temps d'y assister. Mais...
Donc, il y avait, si on comprend, il y a de belles vitrines, entre guillemets, des intentions.
Le contenu est peut-être un peu décevant pour des élèves, par exemple, qui ont réfléchi pendant toute une année sur thème-là, donc ils étaient un peu pointus sur la question.
Peut-être plusieurs jours aussi, c'est possible.
Pour profiter.
Donc, je pense au début du discours de Petrini à l'ouverture, qui a dit « nous marchons sur la tête ». Si j'ai bien compris, ça va continuer encore quelques temps, quoi.
C'est-à-dire que devant l'urgence du bouleversement climatique à venir et devant la prise de conscience à avoir, le contenu de l'expo universelle était peut-être un peu faible. Enfin, on ne sentait pas l'urgence à agir.
Alors, le fait d'avoir choisi le thème est important parce que on ne peut pas ne pas en parler.
On ne peut pas en parler, non.
Après, effectivement, les actions... Donc, le on parlait de Slow Food. Vous êtes allé voir les gens de Slow Food ou pas? Vous n'avez pas eu le temps peut-être de tout faire?
Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver leur stand. En fait, il y en avait tellement. On a tout de suite remarqué donc les grands lobbies comme Lindt. J'ai remarqué aussi directement à l'entrée, il y avait déjà une sorte de petite charrette, on va dire, avec un commerçant. Je crois que c'était de Ferrero. Donc en gros, ils vendaient des glaces ou Nutella ou trucs comme ça. Et juste à côté, il y avait le magasin Nutella. Donc en fait, il y avait surtout des grands
groupes agroalimentaires.
Voilà. Mais Serge, il peut vous présenter un bon fabricant, il va vous dire. Ah, donc des lobbies, mais sans, on s'y attendait, puisque nous, on avait parlé du fameux grand leader du fast-food, dont la présence a fait débat. Bon, il a séduit en disant qu'il a lancé un concours dans puisque c'est McDo, on en parle. McDo a eu du mal à s'implanter, beaucoup de mal en Italie, contrairement à la Grande-Bretagne ou à la France. Il a mis des années avant de s'implanter. Mais maintenant qu'il y est, il veut le développer. Il a lancé un concours entre les agriculteurs sur 7 produits, les agriculteurs italiens, avec des élus, entre guillemets, et c'est une intention. Il ne servirait que des produits proposés par ces agriculteurs. Donc on serait dans le circuit court. Après, comment c'est cuisiné, c'est autre chose. Donc, il a séduit un peu sous cet angle-là. Il s'est acheté une conduite. Alors, ça a provoqué effectivement beaucoup de contestations, un peu les mêmes qu'on est en train d'entendre en ce moment sur le futur sommet parisien autour de l'environnement et le climat.
Et vous, à titre personnel, entre les différents thèmes qui sont abordés, la culture bio, l'absence d'OGM, la production au kilomètre zéro, l'absence de gaspillage, qu'est-ce qui vous paraît, à titre personnel, le plus facile à mettre en œuvre pour vous ?
Pour vous, votre génération, par rapport à nos générations, on va dire aussi.
Allez, Camille. Je sais, personnellement, donc je vais parler de ce sur quoi j'ai travaillé, c'est ce dans quoi j'ai été plus impliquée. Donc c'était, pour rappeler, donc c'est le kilomètre zéro, consommer local, etc. Il y a aujourd'hui énormément d'organismes ou d'associations qui permettent aux consommateurs de consommer des produits locaux et des paniers paysans, etc. Et donc c'est pas forcément quelque chose de difficile, c'est accessible, c'est pas non plus forcément plus cher, et néanmoins ça peut changer beaucoup de choses plutôt que d'aller acheter ses fruits et légumes ou quoi dans des qui viennent d'Espagne qui sont pas forcément...
Oui, le pire, c'est la poire qui vient du Chili, quoi.
Et alors qu'il y en a qui sont en France, quoi.
Voilà.
L'impact carbone de ces aliments.
Ensuite, David.
Eh bien, moi, c'était surtout... comment dire, il y avait tellement de choses. Moi, j'ai pas vu de pays qui a fait une vraie conférence en m'expliquant comment ils allaient trouver une solution pour les autres et pas seulement pour eux.
Non, mais toi, à titre personnel, qu'est-ce qui t'interpelle le plus? Le kilomètre zéro, le bio, le...
Est-ce que vous avez changé vos habitudes de consommer, par exemple? C'est peut-être une prise de conscience intéressante.
Oui, moi, par exemple, c'est pour l'élevage intensif. Je n'achète aucun produit issu, ben, justement, de l'élevage intensif. Hein. Je privilégie tout ce qui est petit producteur. Et bon, ce que je fais, c'est qu'un début, je pense que si tout le monde déjà commençait par ça, petit à petit, on pourrait améliorer les choses.
Alexandre?
Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est le gaspillage alimentaire. Donc déjà, parce que c'était le premier pavillon que j'avais vu, mais j'avais déjà vu l'élevage intensif qui m'avait beaucoup marqué parce que j'avais vu des images horribles d'animaux encastrés dans des petites boîtes.
Alors, ce qu'il faut, quand on voit les animaux encastrés, bon, il y a les animaux, mais il y a la dose d'antibiotiques derrière qu'ils injectent hein, aussi.
Oui, mais justement, après, il y avait aussi des parties positives, mais bon, celle-là n'était pas... Lorsqu'on entendait les parties positives, c'était pas forcément comme une sorte de mécanisation qui permettait une sorte de robot qui allait dans les allées et qui ramenait le foin vers les animaux. Donc on peut dire que c'est positif, mais on sait pas forcément tout de suite que dans le foin il y a des antibiotiques, il y a différents. Et après on retrouve forcément des traces de ça dans notre nourriture à nous. Donc je repars sur le gaspillage. Ce qui m'a surtout choqué, c'est, je sais plus exactement c'était combien de kilos, il disait, mais c'était énorme en tout cas.
Oui, c'est 20 à 30% de la production.
Voilà, justement, qui était gaspillé bêtement, tout simplement. Là, juste le fait de ne pas forcément terminer son assiette le soir lorsqu'on mange chez soi. Juste ça, déjà, c'est un...
Oui, ça, c'est le gaspillage qu'on voit, mais il y a tout celui qu'on...
Oh, oui, oui, comme je parlais juste avant, voilà, les grandes surfaces, déjà, juste ça.
Camille, qu'est-ce qui t'en restera pour changer tes habitudes ou qu'est-ce que tu privilégies dans tous ces systèmes qui sont pour le moment alternatifs?
Ben, le gaspillage, c'est vrai que c'est, comme a dit Alexandre, je pense que c'est pas forcément quelque chose... Enfin, avant de... Même quand j'étais plus petite, avant de travailler là-dessus, etc., des fois, je gaspillais, je m'en rendais pas compte. Et c'est vrai que quand on voit tout l'impact que ça a et quand on voit qu'il y a des milliards de... Oui, peut-être, oui, ou des milliards qui n'ont pas à manger à leur... Des milliards de personnes sur la Terre qui n'ont pas à manger à leur faim. On pense à eux et on se dit que nous, on a la chance de pouvoir manger comme on veut. Donc, on finit notre assiette, quoi. Et après, c'est pareil. Enfin, je sais que, bon, personnellement, actuellement, je vis encore chez mes parents. Mais l'année prochaine, quand je vivrai toute seule dans mon appartement, bah, je n'irai pas acheter trop. Et pour, au final, une semaine après, quand tout sera périmé, tout jeter, quoi. Enfin, voilà, je pense que c'est important de...
Elisa ?
Moi aussi, pareil, le gaspillage, parce que... Je pense que oui, tout le monde doit manger à sa faim et actuellement, c'est pas le cas, quoi.
Alors, je vais vous poser une question sur le kilomètre zéro concernant les légumes. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà eu l'occasion de pratiquer le jardinage de manière, non pas régulière, mais au moins sur un cycle complet de végétation?
Oui, bah chez moi, j'ai un potager. Donc, du coup, mon papa, chaque année, il met ses légumes. Et puis, on achète aussi le panier paysan. Donc, c'est un panier avec des légumes de saison chaque semaine qui font d'une partie d'une association locale. Donc, c'est des produits locaux qu'on consomme.
Et vous pratiquez peut-être le compostage aussi des déchets, voilà, qui permet de recycler.
Justement, moi aussi, donc, ça fait pas très longtemps, ça doit faire peut-être 2 ans qu'on s'y est mis avec ma famille. Donc, on a une sorte de petit carré de jardin. Donc, on achète des petites salades, je veux dire. Un agriculteur qui est juste à côté, vers l'île d'Abo. Donc, en bas, c'est très près. Je veux dire, je peux même y aller à pied ou en vélo, ça me dérange pas du tout. Donc, je peux prendre des arbres fruitiers, des salades, tout plein d'aliments. Et j'ai juste à les planter, justement. Bah là, on en a mangé une récemment, de salade qui vient de mon jardin. Donc, je suis fier dans le sens où j'ai pas, on va pas dire que j'ai pas pollué non plus, mais voilà. Quoi, je suis fier.
L'étape suivante, c'est de semer les graines.
Voilà.
C'est très facile.
On va. Ils sont intarissables. Hein. On va laisser votre professeur choisir le prochain morceau, par contre, de
Alors,
musique.
Il s'agit de Couleur Café, pour rester dans le thème de l'alimentation et des boissons typiquement italiennes. Couleur Café, bon, de Serge Gainsbourg, mais interprété par Musica Noda, le groupe de Petra Magoni et Ferruccio Spinetti.
Qui est à voir. Et il passe dans la région fin juin à Confluence, à Lyon.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tout le soleil. joli bracelet. À tes pieds, il se balance. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur café, que j'aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir aller. Ensuite tes yeux et tes hanches, si tu fais comme les cafés, rien que m'énerver, rien que m'exciter. Ce soir la nuit c'est un plancher couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur café, que j'aime ta couleur café. L'amour sans philosophie, c'est comme les cafés, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça c'est assez. Couleur café. Couleur café, que j'aime ta couleur café.
Voilà, Petra Magoni et Ferruccio Spinetti.
Musica nuda.
Sur Couleur FM 97.1. On va souhaiter bonnes vacances à tous nos auditeurs, mais on va vous laisser la conclusion. Donc, Laurence, avec tous nos amis, là, Elisa, Camille, Alexandre et David. David.
Alors, pour le mot de la fin, voilà, qu'est-ce que cette expérience d'une année vous a apporté? Et je pense beaucoup de choses positives. Donc, nous allons laisser la parole aux élèves. Elisa.
Moi, personnellement, ce que je retiens beaucoup, c'est les rapports entre les êtres humains, parce que au niveau, le premier soir, moi, je sais que j'ai eu le droit au repas typique italien, donc c'était grandiose. Il y avait toute la famille, et franchement, ils m'étaient vraiment très accueillants, et ça m'a vraiment beaucoup marqué.
Camille ?
Bah, moi, pour continuer sur les rapports humains, je pense que je me suis fait des amis, bah, du coup, à l'international. Hein. Et c'est, je pense, une amitié qui va durer dans le temps et on va se revoir. Donc, c'est vraiment hyper positif comme ce que j'en tire. Quoi.
Donc, moi, j'ai surtout retiré la prise de conscience. Donc, déjà, un chiffre qui m'a marqué, un habitant sur sept, donc au niveau de la population mondiale, ne mange pas à sa faim. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi la surconsommation. Donc dans certains pays, il y a une surconsommation, donc on mange trop. Et donc toute cette nourriture-là, bah, on pourrait largement nourrir la planète avec tout ça. Donc c'est beau de dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça, mais après, il faut mettre aussi en place les choses qu'on dit. Et ce n'est pas qu'une histoire d'argent, ou faut aussi se rendre compte, c'est qu'en fait, c'est uniquement l'argent, c'est le système économique qui tient un peu tout ça au point mort.
Bien, quant à moi, j'ai envie de dire un bilan mitigé de l'exposition universelle, puisque on a à la fois côtoyé des dizaines et des dizaines de cultures, mais au contraire, on a vu que toutes ces cultures n'étaient pas encore prêtes à...
Il y a encore du travail.
Il y a beaucoup de travail, énormément de travail à faire. Il y a beaucoup de chemin encore à parcourir. Il faut voir ce que ça va donner, quoi.
Très belle conclusion.
Oui, je voulais remercier les élèves pour la qualité de leur travail, leur implication pendant toute cette année, et j'espère que
le sent.
Oui, on le sent.
On n'a pas eu le temps pour David, il voulait nous parler d'un groupe qu'il a découvert en Italie aussi, mais on va vous réinviter. Tu as découvert un groupe de rock, je crois.
Oui, un groupe de rock et pop.
Qui s'appelle
Gramaro.
Qui va venir nous présenter une autre fois. Et donc l'année prochaine, vous êtes plus au lycée?
Non, normalement, bien sûr que non.
Et vous savez ce que vous allez choisir.
Quelles sont les orientations l'année prochaine, Elisa?
Un BTS.
En quoi?
Dans le secteur tertiaire, services et prestations des secteurs sanitaires et sociaux pour travailler dans les mutuelles, dans les centres de soins, etc.
Très précis. Hein.
Camille?
J'aimerais beaucoup Sciences Po. J'ai passé les concours dernièrement, mais bon, j'ai pas trop d'espoir. Sinon, en prépa littéraire, sûrement.
J'aimerais devenir ingénieur en chimie, dans la fabrication des médicaments ou même des vaccins.
Quant à moi, ça sera une faculté de langue pour devenir interprète en italien et en anglais.
Donc tu ferais une LOA ou une langue littéraire?
LEA plutôt.
LOA. Très bien. Mais on vous remercie. Merci Serge. Merci Laurent.
Merci Couleur FM.
Et puis
97 points.
97 points. À bientôt. Et puis quand vous voulez, vous revenez.
On ira vous chercher.
On ira vous chercher.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
À l'écoute de l'Italie.
Une émission de l'association INIS, Italie, Nord-Isère.
Le troisième ou dernier lundi du mois à 20h.
Rediffusion le jeudi suivant à 18h et le dimanche suivant à 10h.
Actualité et tradition.
Chansons et gastronomie.